10h44, bienvenue dans Trudeau Landry. Bienvenue. Bon début de semaine. Merci d'être là. 25226, c'est le numéro de texto pour nous joindre. On vous rappelle qu'à 13h, il y a un point de presse. Oui, point de presse du premier ministre François Legault, docteur Arruda, Christian Dubé, ministre de la Santé. Donc, on s'attend à ce qu'on annonce que la majorité des régions au Québec qui étaient en rouge vont bel et bien passer au orange le 31 mai. Donc, à suivre à 13h. Diffusion en direct du point de presse sur votre station préférée du réseau Cogeco. On va prendre quelques minutes pour aller voir ce qui se passe au sud de la frontière avec notre invité. Entre autres, il y a un événement. En fait, on souligne aujourd'hui un an après le décès de George Floyd. Donc, le 25 mai 2020. George Floyd qui était assassiné, disons-le comme ça, par Derek Chauvin, un policier qui l'a maîtrisé, mais d'une façon épouvantable avec le genou. Bon, tout le monde a vu les images. Il y a eu un procès où il a été déclaré coupable, le policier. Donc, on se retrouve un an plus tard, puis on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec cet événement-là? On en parle avec notre invité de la chaire, chercheur à la chaire, Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut, Raph!
Salut, messieurs!
Bon, un an plus tard, Raphaël, ça a-tu changé quelque chose, l'affaire George Floyd?
Ben, ça a-tu changé quelque chose? Oui et non. C'est-à-dire que, premièrement, le verdict de culpabilité de Derek Chauvin, je pense, au moins changé la perception de quelques Américains, comme quoi il y a peut-être un minimum d'imputabilité dans les cas de brutalité policière, surtout celles qui ciblent les Afro-Américains. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien, là, ce dont on s'est parlé beaucoup dans les dernières semaines, ce procès-là, puis surtout ce verdict-là, parce que un policier qui est reconnu coupable de meurtre, tu sais, je pense qu'on n'a pas vu ça souvent aux États-Unis. Dans le contexte de la dernière année, c'était spécial. En même temps, je vous ai préparé une couple de statistiques que je voulais partager avec vous, OK? Pour quand on se parle des inégalités raciales aux États-Unis, que ce soit un an après la mort de George Floyd, que ce soit 5 ans après, on regarde au début des années 2020, où est-ce qu'on en est? Quand on regarde, par exemple, au niveau de l'incarcération, OK? Des inégalités au niveau de l'incarcération. Aux États-Unis, les Noirs, les Afro-Américains, forment à peu près 12% de la population. Ils forment en même temps à peu près 35%, à peu près le tiers de tous les prisonniers à la grandeur des États-Unis. Il y a encore à ce jour plus de Noirs que de Blancs qui sont emprisonnés, de façon brute, là, alors que les Noirs sont proportionnellement 5 fois moins nombreux que les Blancs aux États-Unis. Ouais. Puis on estime que c'est à peu près un homme noir sur 3 qui est né aux États-Unis en 2001. Fait que ça veut dire que on parle de jeunes hommes aujourd'hui, là, qui ont à peu près 20 ans. Donc, 1 sur 3 né au début du siècle qui, un jour, va être incarcéré.
C'est fou, là. Ces statistiques-là sont ahurissantes. Et la plupart des gens se demandent, un an plus tard, qu'est-ce qu'on retient du mouvement Black Lives Matter? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que je me trompe ou que ce serait un peu utopique de prétendre que après un si court délai, parce que c'est court d'année, que le climat a totalement changé? Tu sais, que les statistiques ont viré de bord. Ça va se mesurer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Je suis sceptique, là. Mais s'il y a une mesurée, je veux dire, après quelques, tu sais, 52 semaines, là, c'est rapide, là, pour voir des changements tangibles, non?
Absolument. Et puis, j'irais même plus loin que ça. Je pense que ce qui aide pas la cause de façon très, très large de ce mouvement-là depuis la dernière année spécifiquement, c'est que on est tellement tombé dans les excès. Puis là, je parle pas juste des violences qu'on a vues l'été dernier, même si clairement ça n'a pas aidé cette cause-là non plus. Mais quand il y a eu toute cette espèce de mouvement qui a découlé du mouvement Black Lives Matter là, pour couper le financement à la police. Vous vous rappelez de ça, là, le mouvement Defund the Police. Oui. Il y a des villes aux États-Unis qui l'ont carrément adopté, ce mouvement-là, et qui ont coupé de façon sauvage le financement qu'ils accordaient à leur département de police. Et ça n'a pas pris un an pour qu'il y ait un immense backlash politique, parce que, de un, on a vu une hausse de criminalité violente épouvantable depuis les derniers mois, qui est pas juste attribuable à ça, mais je pense qu'il est assez facile à blâmer sur le dos de cette décision-là. Et de façon encore plus élémentaire, parce que c'était hyper impopulaire comme politique d'aller couper le vivre en partie ou en totalité aux forces policières. Fait que, tu sais, ce mouvement-là, je pense, oui, a quand même fait un bout de chemin pour ce qui est de persuader les Américains qu'encore une fois, il y a des inégalités épouvantables raciales qui perdurent depuis des générations. En même temps, a été un petit peu victime aussi de ses propres excès, ou en tout cas, des excès de ses membres les plus zélés. Fait que c'est un portrait qui est, je pense, qui est complexe un an plus tard, mais pour ce qui est tu sais, de comment je pourrais dire, de vraiment alléger le poids là massif de ces injustices historiques là, c'est sûr que ça va prendre plus qu'un an. Une fois que tout ça s'est dit, Joe, je le mentionne quand même. Oui, on est très très loin de l'égalité raciale. En même temps, c'est vrai que ça va drôlement mieux qu'il y a à peine 20, 30 ou 40 ans quand on regarde pas tous les indicateurs, mais la grande majorité des indicateurs, que ce soit le revenu, que ce soit le niveau d'éducation, et que oui, ce soit même, malgré les chiffres épouvantables que j'ai partagés il y a un instant, là, même au niveau des inégalités dans le système de la justice, c'est moins pire que c'était. Fait que ça s'en va quand même dans la bonne direction.
C'est ça. Justement, Raph, je reviens à tes chiffres tantôt. Pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui? Je comprends que ça peut s'améliorer, mais est-ce que... Je pense que tu sais, il y a peut-être l'accès à l'éducation qui est un point central, l'accès peut-être à des soins de santé aussi qui fait que bon, il y a une partie de la population qui va être plus criminalisée. C'est comment ça s'explique encore aujourd'hui dans une société riche, ça? C'est quoi les facteurs?
Là, je veux juste être sûr. Vous aviez dit tantôt qu'on avait 12 minutes avant d'aller à la pause.
Oui, il en reste 6 à peu près.
Ramasse-toi.
Non, mais évidemment, vous comprenez pourquoi je dis ça. C'est que c'est tellement complexe. Mais premièrement, tu sais, je vais le faire bref. Sans faire tous les facteurs, Jérôme, je vais t'en donner un. L'esclavage. Là, je comprends. Il y en a qui vont dire, de quoi il parle, l'esclavage? Ça fait plus de 150 ans que ça a été aboli. OK. Mais l'héritage de ça, c'est que l'esclavage aux États-Unis, qui a été aboli dans les années 1860, s'est transformé en ségrégation. Mmh. La ségrégation s'est transformée, une fois qu'elle a été abolie légalement, là, s'est transformée en discrimination. Puis la discrimination s'est transformée en inégalités qui sont systémiques. Fait qu'encore à ce jour, en 2021, tu nais comme Afro-Américain en partant statistiquement, t'as beaucoup plus de chances d'avoir au moins un de tes parents, puis disons-le très clairement, ton père qui va être incarcéré ou qui va déjà avoir été incarcéré ou qui va être carrément en prison au moment de ta naissance. Déjà en partant, on s'entend que tu pars pas avec les mêmes chances dans la vie. Ça va être les mêmes choses au niveau du niveau de revenu, du niveau d'éducation formelle de tes parents, de tes proches, etc. Et malheureusement, à ce jour, puis ça, je le dis de façon personnelle pour avoir vécu dans une grosse ville américaine de la côte Est qui a une énorme proportion d'Afro-Américains qui y vivent, c'est-à-dire Philadelphie, les quartiers sont encore, puis là, je vais pas utiliser le mot ségrégué parce que c'est un terme qui est super chargé, mais sont encore très largement, les quartiers noirs, je devrais dire, sont encore très largement ceux qu'on avait il y a 30, puis il y a 40, puis il y a 50 ans. Fait que c'est, t'as des problèmes qui sont tellement profondément enracinés que oui, encore une fois, il y a des améliorations, puis il y a heureusement de plus en plus d'Afro-Américains et d'Afro-Américaines qui se sortent de cette misère-là. Mais encore une fois, les racines sont souvent tellement profondes que ça en accroche puis ça en attache encore un sacré paquet, là.
Politiquement, ça représente quoi pour Joe Biden, le premier anniversaire de cette tragédie-là? Bon, évidemment, pour Donald Trump, c'était très difficile pour lui, c'était nuisible. Pour Joe Biden, et loin de moi l'idée de parler d'une opportunité d'utiliser ça, mais je veux dire, un an plus tard, lui, est-ce qu'il est... C'est du bon côté de l'histoire ou un coup que t'es devenu président, là, toi, t'es prêt avec le bilan des 200 dernières années aussi, là. Il se situe où, là?
Ouais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas se leurrer. Il y a une composante politique, que ce soit sexy ou non à le dire. Ouais. C'est ça pareil. T'sais, pour moi, c'est un peu semblable à la COVID dans la mesure où, évidemment, c'est un enjeu qui est très dramatique, qui devrait pas, dans un monde idéal, être politisé, mais qui, concrètement, l'est. Puis, un petit peu comme la COVID, cet enjeu-là sert un petit peu Joe Biden dans la mesure où ça lui permet de renforcer les liens surtout de son parti, du Parti démocrate, avec la communauté afro-américaine, qui sont depuis au moins un demi-siècle extrêmement forts, et de façon plus large avec les minorités ethniques, les gens qui sont, disons, sensibles à leur cause. Fait que c'est pas pour rien d'ailleurs que le président a invité les membres de la famille de George Floyd à la Maison-Blanche pour une commémoration. C'est pas juste pour leur faire du bien. Disons-le très clairement, c'est pour s'aider aussi politiquement parce que, oui, il y a du capital qui peut faire là-dessus. Là.
Il reste une minute à peine, Raphaël. Donc, ça te laisse une minute pour peut-être mettre la table. Je sais qu'on vient de l'apprendre, là, mais le 6 juin, il y a une rencontre entre Vladimir Poutine et le président Biden. À quoi on doit s'attendre? On sentait qu'il y avait des atomes crochus parfois entre Poutine et Trump. Ça va donner quoi, là, l'amitié Biden-Poutine?
Ben, écoute, on se parle de contraste avec Trump. Ça va en être un sacré, autre, bel exemple. Je vous laisse, avec les quelques secondes qui nous restent, là, avec un enjeu. Celui de l'oléoduc qui lie la Russie à l'Allemagne. Ça va être fascinant de voir à quel point Biden va recevoir de la pression là-dessus, parce que c'était un rare dossier majeur sur lequel Trump et Poutine clairement étaient aux antipodes. Et là, de façon, disons, qui a surpris bien des gens, Biden est allé renverser la position de l'administration Trump et essentiellement est venu favoriser la construction de ce pipeline-là, de cet oléoduc-là. Donc, c'est Biden jusqu'à un certain point qui peut se faire peut-être accuser de copinage avec Poutine. Mmh. Fait que tu sais, ça va être vraiment, vraiment fascinant. Fait qu'effectivement, on s'en reparle. Puis, s'il me reste peut-être encore 15 secondes, il reste
oui.
15 secondes?
Je te laisse okay. 15 secondes.
15 secondes.
Oh. Non, mais 20, c'est parce 20, 20,
20 secondes. 20. Ben, 15 risques de souffrir. C'est quand même un point important. C'est parce que je vous écoutais avant qu'on rentre ensemble. Puis, tu sais, Joe puis moi, on se connaît quand même depuis quelques années. Puis, il y a des choses que j'avais de la misère à comprendre par rapport à lui que là, j'ai compris. Il disait tantôt, quand vous parliez d'alcool, qu'il préférait avoir un je vais pas le mal citer, si j'ai bien compris, que Joe préférait avoir un cœur qui battait plus longtemps, même si ça voulait dire que son cerveau en perdait graduellement. Puis
tu vois, je me souviens pas d'avoir dit ça.
Tellement de choses qui s'expliquent maintenant.
Et voilà, on comprend tout. Merci, Raph.
Moi aussi, je t'aime.
Raphaël Jacob, donc, chercheur à la chaire. Raoul Dandurand. Donc, voilà, gros journal aujourd'hui au... aux États-Unis avec, bon, on va souligner donc le premier anniversaire, si on veut, donc commémoration de la mort de George Floyd survenue il y a un an. Moi, personnellement, là, je suis pas américain, j'ai pas le droit de vote, là, puis en bout de ligne, ça a peu d'importance, mais je vous dis quand même que moi, personnellement, c'est, je trouve que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase sur Trump, son espèce d'attitude où... Il essayait pas de calmer le jeu un peu. Moi, j'ai décroché. J'avais déjà commencé à décrocher. Là.
Ouais, moi, j'avais déjà décroché.
J'ai décroché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là.
J'ai l'impression que pour bien des gens, effectivement, que c'était un point tournant. Là,
de il était minable.
Là où il devait mettre des habits d'unificateur.
C'était le contraire.
Il agissait comme le diviseur.
Exact. Vous écoutez Trudeau Landry. Bon mardi, 25 226 pour nous joindre. Merci d'être là. Bonne semaine.